Donc, je commence donc par le prix Aliénor LIP 2020 qui a été décerné à Nicole Ardouin, un livre publié Librairie Galerie Racine par Alain Breton ici présent et qui s'intitule Lilith, l'amour d'une maudite. Alors, Nicole Ardouin, dont nous regrettons l'absence, publie avec Lilith son 9e livre de poésie, après, pour ne citer que les plus récents, Fontaine carnivore en 2008 et Prométhée, nuits et chimères, ainsi que Soie sauvage en 2011. Elle est aussi l'auteur d'un roman, de nouvelles, ainsi que de deux essais, Suarez en Gâtinais et L'univers de Circé. Avec Lilith, Nicole Ardouin s'empare d'un mythe, d'un personnage qui prend sa source dans, très loin dans le passé, dans le récit sumérien de Gilgamesh au 3e millénaire avant notre ère. Lilith réapparaît à l'époque assyrienne et babylonienne, puis on la retrouve dans la Bible hébraïque, dans la littérature kabbalistique et dans la mythologie grecque. C'est dire que ces récurrences témoignent de la force existentielle et psychanalytique du personnage. Lilith est en effet la première épouse d'Adam, dont elle n'est pas issue, puisqu'elle provient de la même glaise. Et elle va renaître tour à tour démon, vouivre, succube, et j'en passe. Elle est, je cite, « portion diabolique de l'humanité, rebelle à l'autorité du mal, c'est un principe nocturne qui brandit, et c'est très prégnant dans le livre, elle brandit l'étendard féministe. » Et là encore, historiquement, Lilith va inspirer les mouvements féministes post-68. Alors, quand la première impression à la lecture de Lilith, c'est évidemment l'érotisme omniprésent. Alain Duhaut, dans sa préface, parle d'un livre flamboyant au sens des flambeurs qui risquent tout pour assouvir leurs désirs. Donc c'est un alcool fort, une épopée qui entraîne le lecteur dans un parcours haletant, le parcours de Lilith. Nous entrons en tant que lecteur dans l'intimité d'une femme qui sent pudeur et qui assume cette impudeur. Comme le dit Alain Duhaut, il n'est question que de désir. Alors, soit, mais il me semble qu'il est quand même abusif, et c'est ce que Claude Luézior a bien souligné dans une recension parue dans Concerto pour Marée et Silence, revue. Claude Luézior montre qu'il ne faut pas réduire ce texte à sa seule dimension érotique. Bien sûr, elle est évidente, mais il s'agit bien, je le cite, d'un combat entre Eros et Thanatos. Thanatos qui est la mort, le principe de mort. Et ce combat entre ces deux principes, Eros et Thanatos, c'est précisément celui auquel l'humanité embryonnaire est confrontée. On y parle du chaos originel, de métamorphose, d'une respiration primitive, ou je cite encore, de ténèbres matricielles. En fait, il s'agit du mal qui se confronte à tout désir, à toute vie primitive. Je cite Nicole Ardouin, « Lointaine et présente, arbre et bûcher, entre le guet du réel et du virtuel, dans la nuit du silence, je vis. On m'appelle Lilith. » Alors Lilith nous mène dans, là encore je cite Claude Luézior, une bataille existentielle aux avant-postes de la création. Lilith est en effet à la recherche de l'unité perdue. Elle veut trouver l'initiation pour approcher en même temps deux choses qui s'opposent, le désir et le manque. Et c'est en cela que le livre de Nicole Ardoin nous mène à la limite, aux confins. Je cite, « Juste au-delà, c'est l'énigme primordiale. » Cela étant, celle qui voulait faire jaillir les contraires, être à la fois, comme elle le dit, revenante, devenante, semble constater dans le livre son échec. Il y a un texte que lira Jean-François ou Colette qui se termine par cette phrase « Nuit de lave, drap de suie ». La désespérance de Lilith est causée par divers facteurs. Il y a la solitude, il y a la vieillesse, mais aussi l'injuste reproche d'être confondue avec toutes les perversions mortifères. En effet, dans des textes forts, elle montre que les descendants d'Adam sont devenus désirs inassouvis, recherche furieuse de l'avant et finalement tristesse sans fond. Ils n'ont pas de guide pour leur enseigner les arcanes de la jouissance pure et heureuse. Aussi se réfugient-ils dans la violence et les turpitudes de la chair, qu'elle énonce d'une manière très forte, sans phare. Alors voilà le parcours de Lilith dans une langue, là il faut le souligner, une langue qui est flamboyante. Alain Duhau parle, je cite, d'un formidable emportement de langue avec un époustouflant baroquisme de mots, avec des rythmes qui se croisent et s'en mêlent comme des corps. Jean-Louis Bernard, qui a fait également une belle recension, évoque à propos de Lilith et de Nicole Ardoin une sourcière dionysiaque des mots. Une sourcière ou une sorcière, hein, peut-être les deux, qui célèbre la sauvagerie universelle de temps immémoriaux, de temps d'avant les codes, où la conquête des sens importait plus que la quête du sens. Alors effectivement, c'est une prose à la fois néo-baroque par l'abondance des images, hein, par ses délires, par l'addition de toutes ces images, mais en même temps, c'est une prose qui sait être lapidaire. Et on le voit à la fin de certains textes, en une formule, elle pose la question où elle donne le sens de sa quête. En vain, l'Éden, mais après. Bref, Lilith, c'est un prix Aliénor dont le tableau de Colette Klein en page de couverture qui s'intitule « Magnétisme » suggère bien l'impact qu'il a sur le lecteur. Voilà, donc je voudrais effectivement remercier Alain Breton pour de nous avoir fourni en peu d'années un second prix à Aliénor extrêmement brillant. Et puis encore une fois féliciter Nicole Ardoin.
Et pour sa présence.
Et pour, oui, et merci d'être là.
Bien sûr.
Alors maintenant, ça va être un choix de texte qui va vous donner une idée.
Blaise, désirée, désirante, inconnue, reconnue. Femme salamandre qui attise, défie, obsède, émerveille. Imaginez, respirer, envisager, dévisager déesse mère, première femme, n'étant pas née d'une côte comme celle qui m'a succédé, je ne dois rien à Adam.
Impudique, contre la peau du temps, cruelle face aux avenirs trop vite décidés, je caresse la licence de tous les possibles. L'air se déconvoitit, se soulève, laissant entrevoir l'infernale spirale des unions. Énergie désirante, émerie des lèvres qui se cherchent. Sur la mosaïque mémorielle brûle des scories, intime mythologie des profondeurs. Là naissent les grandes marées dont le goût de sel n'est que reste de larmes. Illimité le limité qui porte encore les torchères de particules tourmentées.
Déesse triomphante à la féminité tellurique, j'emplis l'espace, nu au milieu des roseaux. Libre dans les spasmes de l'eau, je porte la voix rebelle de tous les désirs inassouvis. Je me fonds dans les syllabes de la tempête, déliant la mémoire des moissons et l'insolence des utopies. Mes cachemires frémissent aux nervures de l'imaginaire. Oser l'accord des harpes nocturnes pour libérer les filtres, en faire jaillir l'eau, tisser les murmures, oasis pour un bûcher. Mais les fauves ne griffent que le vide de l'ombre, secrète alchimie.
Préfiguration de Mélusine, mon appendice ophidien ondule en battant le sol. J'ai sur Ève l'antériorité de la première création. Avec le grand serpent, nous avons organisé sa chute. Debout, droit, le reptile marche jusqu'à moi. Incandescence, sifflement, allaitement, jouissance, peau contre écaille, chair à chair, cendre à cendre, morsures à morsures, naissent des éclairs incontrôlés, incontrôlables. Éclairs au bleu des étreintes, dans la démesure des glissements, tourbillons, brûlures des corps, duel.
Mon règne est sans tabou. Jusqu'au jour où Adam est arrivé et a exprimé ses exigences, ses besoins de procréation. Me refusant à sa domination, je me suis enfuie, laissant derrière moi des soies vénéneuses mais voluptueuses et un homme dépossédé. Sarabande au milieu du jardin premier, les peaux encore chaudes de la laine des étoiles ont libéré les forêts secrètes, gorge à gorge, puits à puits, spasme. Lui, l'homme du sixième jour, n'a rien oublié des naufrages de salive que je lui ai fait goûter dans l'extrême embrasement. Maintenant, il mange l'absence. Je suis derrière le miroir. Aucune soumission.
Je veux retrouver le bleu du premier matin. Ce bleu de songe et d'ardoise qui contient l'écho du devenir et le frisson de la première rosée. Ce bleu léger du vent, encore lié au feu, ce bleu, manteau des ombres qui hésitent entre lumière et ténèbres. Vais-je, dans une troublante féminité, reconquérir mon pouvoir, casser les censures, embrocher les chimères du mal, exacerber son manque, écarteler les mystères du jaillissement pour en boire quelques gorgées, retenir sur la pointe de ma langue ses frissons, défaire et tisser les pliures du bouillonnement fusionnel. Faut-il laisser s'envoler les grands oiseaux à la confidence des braises? Go vibratoire.
Dois-je chercher le puits initial, recouvrer ma force et parcourir le chemin du temps? Requérir un soleil noir, y découper une côte, façonner un homme à ma soif et lui voler ses sueurs, son haleine, ses pluies, sa langue, ses lèvres. Inventer des bras racines pour que l'amant se torde dans une liquéfaction jusqu'à l'égarement. Creuset de combustion, insolent dévoilement. Dois-je revenir à la nuit des origines, révolutionner l'ordre établi? Être de nouveau l'abbesse des démons, revenante, devenante, l'instant oscille, GM ou paradis.
Mirage, mirage dans le sang des nuits, dans les rumeurs possessives des racines, sur des cendres à enluminer. Faire l'amour comme les éclairs dans l'orage, comme les feuilles sous le vent, comme deux esquifs en perdition sous le regard de Méduse, comme des fantômes dans le lit d'un torrent, comme des feux de brousse, comme l'encens qui étouffe le jasmin, comme les cernes bleues autour d'une imploration. Mirage, mirage, les rêves, échos s'enfuient, les énigmes s'enroulent dans l'insolence du venin, dans des traces sans passé, à s'en rendre fou, à s'en rendre sage, ouvrir l'espace du vivre pour une petite mort, nuit de lave, drap de suie.
Réapparaissent les pensées de l'endroit, celles qui tentent, les pensées calices qui offrent, les pensées réverbères, celles qui font mal. Tous les souvenirs tissés dans l'aveuglement dont on ne revient pas, sauf à casser le fil d'Ariane, rêve prométhéen, ardente lenteur, l'effroi du désir humain qui sont de la folie, la dérive du manque, l'Éden, mais après.
Revenir pour apprendre à ceux rares qui l'auraient oublié, l'alcool des nuits perdues, l'alphabet infini de la tentation dans la reddition du regard. Partager mes nuits dans leurs corps égarés. Déjà, les envies foulent le pavement du vivre, aux jointures incontrôlées, incontrôlables. Les lèvres moussonnent sur les secrets de la nudité. Elles sont prêtes à moissonner l'aplomb des stigmates, offrande pour retrouver la lumière. Dans la pénombre, ma langue serpentaire cueille les frémissements du soir, épiphanie d'une nouvelle ère.
Est-ce mieux ? Haine, vengeance. À mon retour, je n'ai pas retrouvé moins de turpitude que lors de mon règne. Femme martyrisée, laissée au bord du chemin, battue, tuée, femme sans visage, sans main, égorgement, lapidation, fornication, soumission, désinvolture, mépris, décapitation, drogue, égorgement, guerre, saccage de la nature, peur, effroi pour combler le cœur de celui qui a oublié la couleur d'un regard chaleureux. À la douane de l'abject, enfant jouet martyrisé entre les mains d'adultes, pris dans les filets de regards concupiscents, ce mal est-il de mon fait ?
Pharaon issu de la nuit souveraine, femme aux yeux de source pailletée d'Orient, mon regard laisse filtrer les tremblements de la forge initiale et la solidification du grand feu. Déesse mère, silencieuse et altière, sulamite, charnelle blasonnée de lueurs sacrées, vestale encore nimbée d'encens, offerte, comblée, songeuse, je suis en exil de l'asile premier, fracassée contre l'écluse des illusions, mes rêves ont leur gibet, égarement dans l'impatience du vivre.
Sur les cicatrices du vide coule la salive des étoiles, les ténèbres crachent des éclairs, l'espace fume sous les gouttières de la nuit, très oblique sur un ciel d'orage. Rêve, confidence, aveu, je les ai déplacés, peut-être pour retenir un oiseau et ses arabesques, conserver les lignes du désert, celles qui libèrent l'urgence des mirages. Entre gerboise et illusion, j'ai écouté mes pas s'évader derrière les dunes du possible, solitude en bandoulière. Le reflet brisé n'est plus que l'ombre blanche du silence.
Merci. Donc, en l'absence de Nicole, je vous propose maintenant de passer au prix 2021. Voilà. C'est Bernard Fournier qui va présenter
Michel Diaz, le verger abandonné. Le verger abandonné aux éditions Musimo.
Eh bien, nous reprenons les mythes une nouvelle fois, puisque revisiter les mythes est une tentation littéraire des plus anciennes, sans doute aussi vieille que les mythes eux-mêmes. Le poète contemporain trouve donc dans les légendes archaïques des éléments pour éclairer notre présent et peut-être aussi notre avenir. Michel Diaz revient ainsi sur l'Odyssée, comme ce titre ne l'indique pas. À part ces noms, nous n'avons aucun décor, un peu de mer peut-être, une île, rarement des dieux, et surtout pas de guerre. C'est dire que l'Odyssée de Michel Diaz est tout intérieur. Il s'agit d'une réflexion sur la fin d'une vie, sur la fin d'un voyage, sur la fin d'une errance qui prend forme d'un recueil épistolaire. Et là encore, il nous étonne avec cette reprise des romans du XVIIIe siècle. Sept lettres, en effet, des lettres, sept à Pénélope, six à Laërte, cinq à Télémaque. Et c'est Ulysse, bien évidemment, qui parle, qui s'entretient avec ses êtres aimés. Un lieu, cependant, se révèle important, le verger, mis en valeur dans les titres, et dont on ne se souvient pas, vous me direz si je me trompe, qu'il en soit question dans l'Odyssée, qui est même son contraire. À part quelques invocations de fruits ou d'Homère, ou d'arbres, Homère n'est pas vraiment prolixe dans l'art de la fructification. On a là un parti radicalement opposé à celui d'Homère, et l'on voit mal Ulysse se transformer en arboriculteur. Il est vrai qu'à la fin de l'Odyssée, on voit Ulysse avec une rame sur l'épaule, étonner les paysans qui n'ont jamais vu la mer. Mais que fait-il après, jusqu'à la fin de sa vie? Cultive-t-il son jardin? La question d'ailleurs ne se pose pas ni chez Homère ni chez Diaz. Ce verger peut être aussi celui du jardin d'Éden, auquel on pense bien sûr. Mais il est abandonné, voué au ravage du temps, simplement laissé à l'avenir du Fils qui en fera ce qu'il voudra. Les pommes qui viendront auront toujours ce goût de la connaissance, mais ce n'est plus un paradis, simplement une friche prête pour l'avenir. Michel Diaz alors nous propose sa propre lecture pour nous intéresser à ce verger qu'Ulysse a laissé dans son Ithaque. Il est vrai qu'Ulysse est roi dans son pays et qu'il avait pour charge de le faire prospérer. On s'interrogera donc à bon droit sur cette fausse route, si je peux m'exprimer ainsi, de cette déviation par rapport à l'original, de cette déviance. La part de la liberté de l'auteur vis-à-vis du premier texte est-elle grande, si grande, que ce soit dans cette déviance ou dans la forme, quand Ulysse parle par lettre interposée? Mais alors, de quoi ce verger est-il le nom? Sans doute fonctionne-t-il comme une métaphore érotique vis-à-vis de Pénélope, jardin en friche qui ne reçoit plus ses maîtres, mobilière vis-à-vis de Télémaque, qu'il reçoit en héritage, philosophique vis-à-vis de Laërte, auprès de qui il revendique la liberté. Serait-il davantage amoureux de son verger que de Pénélope? On pourrait le penser tant il avertit Pénélope que d'abord il pense à cette terre. « J'ai besoin de mes arbres, entends-tu ? Un besoin absolu qui bat au fond de tout mon être comme les ailes d'un oiseau nocturne. » Ce sont eux qui seront les messagers de mes pensées. Et pourtant, Ulysse les abandonne. Il laisse son verger à sa femme, à la merci du temps. Et pourtant, Ulysse demeure amoureux. Je cite, « Si faible est la distance entre nos corps, malgré le temps qui nous sépare. » Il abolit l'espace, il abolit le temps. Les années sont là, dit-il, non entre nous, mais en nous rassemblés. C'est un bel effet de style que de se faire ainsi du temps, non une adversité, mais un atout pour le couple qui se construit au fur et à mesure des années, même si, comme Ulysse, le temps l'emporte loin du foyer. L'élément primordial demeure la fidélité de la pensée qui dépasse les frontières temporelles. Et c'est pourquoi c'est Ulysse l'exilé qui parle ici. L'exilé, le banni des dieux, le rejeté des hommes, mais pas l'oublieux. Ses lettres s'offrent alors comme une réflexion intérieure. Ulysse s'adresse à lui-même, peut-être plus qu'à ses chers, qu'à ses êtres chers. Fin du jour et commencement de la solitude sont ici les bornes égales auxquelles le regard se blesse au risque de son cri. Bien sûr, c'est le poète qui parle derrière Ulysse, et ses mots nous emmènent vers une autre odyssée, tout intérieur, est tout à fait contemporaine. Je cite, « Le chemin qui nous mène d'un bout à l'autre n'est-il pas fait pour qu'on pose toujours les mêmes questions, qu'on sonde dans la même et toujours douloureuse recherche de soi et de l'autre ?» Cette réflexion est à vrai dire universelle, intemporelle, qu'elle provienne d'Ulysse ou de Michel Diaz. Mais elle se termine par cette réflexion désabusée. Vivre, après tout, n'est sûrement rien d'autre que suivre ce chemin qui va de nulle part à nulle part. Voyager est donc inutile. Inutiles sont les paysages. Vivre n'est rien, il n'apporte aucune connaissance. Je n'ai pas plus appris, dit-il, que ce que l'on apprend à côté d'une source sans eau. Il faudrait donc tout un livre pour aboutir à cette négation de la vie. N'y aurait-il donc rien d'autre à faire qu'à imiter l'ermite des sédentaires? En effet, la nuit tombe. Je cite, « Fin du jour et commencement de la solitude sont ici les bornes égales auxquelles le regard se blesse au risque de son cri. » Le poète s'enferme entre les quatre coins du jour, du mur et de son esprit. La voix se brise aux angles et le cri se déchire aux fenêtres. Dans cette chambre obscure, Ulysse, atteint, perçoit le monde infernal. Car nous sommes ici du côté des fantômes, dit-il, des mots qui nous adressent, des âmes qui nous parlent et à qui nous ne savons pas répondre parce que nous ne sommes pas du même monde. Nous les aimons autant qu'elles ne sont plus là. Mais Ulysse est déjà bien dans son autre monde et c'est pourquoi il entend ces voix d'outre-tombe. Cependant, le poète, quand il parvient à sortir de sa chambre, de son bureau, de son cabinet, est sauvé par les mots qui construisent et bornent son paysage. « Je te livre ces réflexions telles qu'elles me sont venues à l'esprit à mesure que j'avançais, mais se consolidaient comme un muret que l'on bâtit contre le vent, pierre à pierre. » On devine, le poète est un marcheur, un errant comme Ulysse, infatigable, obstiné, et cette marche rythme la parole, l'écriture. Même si cette progression est tout intérieure, le rythme est là, qui fait progresser l'écriture. Mais il y a encore davantage. Quand le poète nous surprend à la fin, Ulysse ne reviendra pas. Voilà en effet une fameuse invention de la part du poète que d'imaginer le non-retour d'Ulysse alors que les plus belles pages de l'Odyssée nous montrent le chien Argos retrouvant son maître malgré son déguisement et peut-être surtout le tragique meurtre des prétendants. Et l'on comprend mieux alors l'abandon du verger, l'abandon des siens, l'abandon d'une partie de soi. Ulysse demeure seul, restera seul. En effet, dans l'imaginaire de la réception de l'Odyssée, il n'est question que de la solitude du héros. Certes, avec le but de rejoindre sa patrie et sa femme, mais d'une solitude accrue par l'errance, quand ce n'est pas l'errance elle-même qui la conforte et la constitue. Malgré cette déviance, il y a là une réelle fidélité au mythe. Michel Diaz invente donc une nouvelle aventure pour le héros d'Homère, celle de la découverte d'une autre île, ultime lieu d'avant cette lumière. Et cette île elle-même devient alors le symbole même de l'errance, qui n'est pas une fuite, mais bien plutôt une quête territoriale, temporelle, identitaire, littéralement une utopie. Quête vivifiée par l'amour qui offre de, je cite, déposer la cendre de nos yeux et celle de nos gestes dans la boîte en argent du temps. En réalité, Ulysse et ses voyages sont la métaphore même, le symbole de l'interrogation humaine existentielle. Et comme cette interrogation dépasse toutes les frontières, l'homme se doit à une réinvention. Chez Michel Diaz, il a d'abord cette focalisation sur le verger qui n'est pas des moindres, et davantage. Et peut-être tout simplement, j'allais dire, il y a le style. Nous avons ici affaire à une véritable poème, en prose, sensible par le rythme, le vocabulaire et les effets prosodiques. Le jour est si étroit, pourtant qu'à grand-peine s'y glisse la voix, s'y faufilent les gestes, s'y épuisent les yeux. Dans la préface, David Le Breton nous rappelle dans ce mot d'Edmond Jabès, le lieu véritable est-il absence de tout lieu? Tel est l'insiste du texte de Michel Diaz, de laisser dans l'esprit du lecteur un étonnement, un déséquilibre qui en fait tout le prix. Je vous remercie.
Merci Bernard. Excusez-moi doublement.
Parce que je manque à tous mes devoirs, j'aurais dû commencer par vous présenter davantage voilà. Michel Diaz. On va dire que c'est la photo Covid. Et puis peut-être le double prix. Toujours est-il qu'avant la lecture, pour ne pas trop rompre, je voudrais quand même vous dire que Michel Diaz est né de l'autre côté de la Méditerranée, ce qui n'est pas, me semble-t-il, ce qui est important pour comprendre ce qu'il écrit. Il s'est installé avec sa famille après quelques pérégrinations en 1964. Il a commencé à enseigner en 68, comme on disait à l'époque maître auxiliaire, mais d'après ce que j'ai compris, vous avez vite monté les échelons académiques et jusqu'au doctorat, excusez du peu. Il vit aujourd'hui à Tours où il a été enseignant en lettres modernes et en littérature théâtrale. Et à cet égard, c'est un spécialiste d'Arthur Adamov auquel précisément il a consacré sa thèse. Comme toujours, depuis toujours, vous avez été attiré par la poésie sans pouvoir lui consacrer tout le temps que vous auriez souhaité. Ça arrive à beaucoup. Et vous avez d'abord écrit surtout pour le théâtre pendant près de 25 ans. Alors, pour aller très vite, je cite la création de dramatiques radiophoniques sur France Culture et la RTBF, des lectures publiques à l'invitation de Jean-Louis Barrault et Laurent Terzieff, une pièce jouée par Maria Casares et mise en scène par Georges Vitali au Théâtre Mouffetard. Vous êtes aussi, Michel, l'auteur de plusieurs recueils de nouvelles et de poésie, et chez de nombreux éditeurs que je ne cite pas, notamment Oswald, Jack S., L'Ours Blanc, Cénomane, Lamourier, Alcyone, Musimo, et j'en passe. Vous êtes chroniqueur dans plusieurs revues que nous connaissons, Diérèse, Terre de Femme, Chemin de Traverse, pour ne citer qu'eux. Et puis vous avez publié une douzaine de livres d'art en collaboration avec des artistes, peintres et photographes. Et vous-même, vous travaillez à de nombreux livres d'artistes. Voilà, encore avec toutes mes excuses pour cet intermède, mais c'était important. Et on va passer maintenant à la lecture d'extraits du Verger abandonné.
Alors donc, un extrait de la première lettre à Pénélope. Oh, mon épouse aimée, si faible est la distance entre nos corps, malgré le temps qui nous sépare, que dans l'hésitation de la lumière qui se lève chaque matin sur nos deux couches orphelines, lourdes des cendres de la nuit, je ne puis qu'avoir l'illusion de renaître dans la respiration de deux êtres qui dorment, tête posée de l'un au creux de l'épaule de l'autre. J'écoute ce silence comme une joie que j'ai aimée, puis passe au loin tel un rameur sur la mer aux écailles brillants. La dérive qui m'a emportée dans la grimace disgracieuse du lointain et son rire difforme, je ne pourrai y mettre un terme que quand je reviendrai dans mon verger, affamé de partielle amnésie, après 10 années de tuerie, de souvenirs affreux à effacer et 10 autres d'errance. Et je sais qu'il n'y a que ces troncs tourmentés et les contorsions de leurs branches qui sauront me parler de ta si patiente fidélité. Qu'aurait-il donc fallu pour que je ne vous abandonne pas? Que l'air là-bas y fût un peu plus tendre, un peu plus rose la couleur des crépuscules, ou bien ta main sur moi un peu plus lente et tes doigts seulement un peu plus audacieux? Pourtant, loin d'eux en vérité, et loin de toi, je n'ai pas plus appris que ce que l'on apprend à côté d'une source sans eau. Sinon le glaive et le tranchant d'une lune guerrière, la patience, la ruse des sièges et les heures d'orgasme des champs de bataille.
Alors, un extrait, deuxième lettre à Laërte. Je te demanderai ensuite, plus simplement, de me suivre au verger. Le chemin qui y mène est abrupt et difficile son accès. Il y a une montée dans laquelle chaque pas compte presque autant qu'une dizaine d'autres sur un terrain égal et plat. Une rambarde sous la main te permet d'attendre un moment entre chaque pas que tu mets, chaque marche gravie. Je te dis là ce que je vois, puisque ce que je vois avec les yeux de la mémoire, je le connais pour l'avoir vu avec mes yeux de chair. Un banc aménagé en haut des marches, une planche large et épaisse posée sur de gros blocs de pierre te permet de t'asseoir et de reprendre souffle. Tu viendras avec moi. Tu devras venir. Je t'y aiderai en te soutenant de mon bras. Tu verras. Tu me demanderas ce que je sais. Je te dirai que je ne sais rien d'autre que ce que je sais depuis presque toujours. Depuis qu'avec ton aide, presque un enfant encore, j'ai défriché ce lieu par toi donné à mon usage pour y planter mes arbres. C'est en gravissant cette pente qu'un jour une de mes lanières de sandales a cassé. T'en souviens-tu ? Tu t'es penché sur moi et as rattaché la lanière, interrompant ton geste à cause d'un vol de passereaux jailli des arbres. Tu me demanderas ce que tu veux savoir et ce que tu attends de moi, où je manque à l'image que tu avais de moi. Quel morceau du puzzle te manque ? Quelle pièce détachée ? Ou quelle scène d'une pièce de théâtre où je serais censé te donner la juste réplique ? Quelle intonation de ma voix ? Quel geste familier ? Quelle formule machinale ? Quel réseau de veines, d'artères, de nerfs ? Tu me demanderas pour autre preuve les paroles que nous disions quand nous restions sur place jusqu'à la tombée de la nuit. Et je te les dirai. Comme je te dirai, avant même de pénétrer, les dimensions exactes du verger, le nom des arbres qui le peuplent, et de quelle manière ranger. Il n'y a rien que je ne puisse omettre de ce qui était là, à moins que tout à coup ma mémoire défaille, et quand cet homme qui m'aurait volé jusqu'aux inflexions de ma voix se soit glissé, un habile imposteur.
Extrait de la deuxième lettre à Télémaque. Cher fils, retenu dans une contrée sans doute inhabitée pour je ne sais combien de temps, ainsi que je le confiais à ta mère, je ne saurais pourtant rester longtemps absent, et nos avaries bientôt réparées, je l'espère, ce sera le moment d'enfin nous retrouver. Cette lettre, je la remets au rouleau de la vague dont la rumeur glissant sur ses crêtes d'écume échouera, je le sais, sur tes rives. Mais c'est à mon verger que j'en veux revenir. À ce lieu, si longtemps délaissé, qu'aucune main selon ma volonté n'a plus entretenu, où une aube faite suite à la nuit, une autre nuit à l'aube, dans la quiétude d'un enclos où les fastes de la récolte ont laissé place à la seule sauvagerie des herbes et des ronces. J'ai besoin de mes arbres, entends-tu ? Un besoin absolu qui bat au fond de tout mon être comme les ailes d'un oiseau nocturne. D'abord, pour convaincre mon père que je ne suis pas autre que celui que je suis. Ensuite, pour que ces arbres plaident en ma faveur auprès de mon épouse. Enfin, s'il daigne m'accorder le pardon de mon abandon, pour faire parmi eux une retraite dans la réflexion du silence qui répandra entre mes mains ces chuchotis d'oiseaux, comme au sein d'une grotte où l'on n'entend rien d'autre que le bruit de l'eau qui tombe goutte à goutte, où la couleur de la pierrière et son recueillement peuvent harmonieusement s'allier à des ombres derrière lesquelles surgissent d'autres ombres à qui l'on désire parler pour se soulager de soi-même.
Alors, extrait, septième lettre à Pénélope. Nous venons au monde les mains vides et nues. Nous n'y sommes que les passants, les hôtes provisoires. Rien ne nous appartient jamais. Nous ne possédons jamais rien. Et nous devons en repartir quand il en est encore temps, aussi pauvres qu'au premier jour, mais riches du bonheur d'avoir été de ce miracle qu'est toute existence sur terre, et de ceux qui cultivent l'amour, rendre alors de ses mêmes mains, pour prix de l'hospitalité, le salut apaisé de la gratitude. Ne sois pas triste. Vivre, après tout, n'est sûrement rien d'autre que suivre ce chemin qui va de nulle part à nulle part, dans le dépouillement et le délaissement progressif de soi-même, devenir plus qu'un pauvre parmi les pauvres, plus démuni encore qu'un mendiant, sans nom pour l'appeler, sans terre où se poser, et sans autre espérance que celle d'assumer son destin. Chemin qui va de rien au rien, ce chemin de la mort poudreuse, mais le seul sur lequel, dans son insoutenable vérité, nous sommes vraiment libres.
Peut-être Michel. Éventuellement, le public pouvait poser des questions.
Et auparavant, Michel. Auparavant, c'est une excellente question qui a tombé. Voilà. Mais, il y a un petit chèque aussi, quand même, avec.
Merci, Colette. Voilà. Bravo. Merci. Avant de répondre à vos éventuelles questions, je fais un devoir de vous dire que je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui, très ému, cela va sans dire, parce qu'on ne reçoit pas tous les jours un prix de cette qualité. Je vous suis très reconnaissant d'avoir, je m'adresse aux membres du jury, d'avoir distingué mon petit livre. D'autant plus reconnaissant, ému et heureux que je sais quelles belles figures de la poésie contemporaine ont déjà reçu ce prix Aliénor, ce prix décerné par le cercle Aliénor. Je tiens à associer à cette récompense, au bonheur de cette récompense, mon éditrice Monique Lucchini, donc directrice des éditions Musimo. Je remercie du fond du cœur encore Béatrice Marchal, les membres du jury, qui permettent à ce petit livre d'exister un peu mieux et un peu plus. Je voudrais aussi remercier les personnes, les critiques, poètes, femmes et hommes de lettres qui ont consenti à consacrer un petit peu de temps, de leur encre et beaucoup de leur sensibilité à écrire quelques articles sur ce livre. Articles qui ont été reçus par diverses revues et qui m'ont fait grand plaisir. Voilà, ils ont permis de débrouiller peut-être un peu plus certains aspects de l'ouvrage que certains lecteurs ne sont pas censés voir immédiatement. Voilà, donc ils ont fait de façon très efficace le travail de critique.
Parlez un peu plus fort.
Je reprends depuis le début. Oui, je disais que je remerciais les femmes de lettres et hommes de lettres, auteurs, poètes, qui ont consenti à prendre un petit peu de leur temps et à consacrer un peu de leur encre et de leur sensibilité à écrire quelques textes critiques sur cet ouvrage. Donc textes qui ont été reçus dans diverses revues et qui ont permis de débrouiller certainement aux yeux du lecteur un peu plus et un peu mieux ce qu'il s'efforçait de dire, ce vers quoi il s'efforçait de conduire.
Une bien, merci. Merci Michel. Cela étant, je vous invite tous à la fin de la séance. Ce petit livre, qui est aussi un grand livre, est disponible bien sûr pour qui le veut.
Celui de Nicole également.
Également, oui, oui, bien sûr.
Bon, alors, ouais. Par contre, on n'aurait pas de dédicace. Donc vous y gagnez en choisissant le livre de Michel. Mais bon, vous pouvez acheter les deux, c'est encore mieux.
Oui, on va le poser là carrément. Parce que
il y a peut-être des questions.
Oui.
Bah, oui, peut-être, je ne sais pas. La première question qui vient, c'est pourquoi Ulysse ? Et la deuxième corollaire, c'est pourquoi ces lettres ? Pourquoi la forme épistolaire ?
Bon,
c'est pour ouvrir le chemin.
Bon, ben écoute, je vais me forcer de parler un petit peu plus fort que tout à l'heure. Si ce n'est pas assez, vous me dites. Oui, Béatrice Marchat, tout à l'heure, a signalé que j'avais publié quelques ouvrages, quelques recueils de nouvelles, ce qui signifie que j'aime bien raconter aussi des histoires. Celles qui sont dans ces recueils, celles aussi contenues dans ce livre-là, mais je peux aussi prendre quelques minutes pour vous raconter l'histoire de ce livre. Alors peut-être pas exactement la genèse, parce que la genèse d'un livre reste toujours assez mystérieuse, et peut-être d'ailleurs ne tient-on pas à la dévoiler tout à fait, mais c'est un texte que j'ai commencé à écrire il y a pas mal d'années, je ne sais plus très bien, 5 ou 6 ans. J'ai commencé à en écrire quelques pages, 6, 7, 8. Je n'ai d'abord pas compris où ces pages me menaient, pourquoi je les avais écrites, ce qu'elles désiraient faire de moi. Bon. J'ai donc abandonné ce texte pour le reprendre quelques mois après, le compléter par quelques pages encore, puis pour l'abandonner encore, ne sachant toujours pas où ce livre me menait. Et puis je l'ai repris, et puis encore laissé tomber, donc remisé dans mes archives, et avant de le reprendre et de le poursuivre, et puis cela pendant près de 4 ans, jusqu'à ce qu'il adopte sa forme définitive. Voilà. À vrai dire, ce texte m'encombrait, parce qu'il peinait à trouver sa forme, sa voix, son ton, et voire sa nécessité. Mais pourtant, il revenait de façon obsessionnelle se rappeler à mon bon souvenir. Il avait quelque chose à dire que je ne comprenais pas, que je ne savais pas appréhender. Et puis, voilà, c'est lui finalement qui a eu le dessus. Mais même une fois terminé, j'ai hésité assez longuement, pendant même plusieurs mois, à le proposer à la publication. Qu'était ce livre qui n'entrait pas tout à fait dans ce que j'écrivais d'habitude, dans ce que j'avais écrit jusque-là, dans ce que je ne souhaitais peut-être pas poursuivre encore de ma manière d'écrire. Ce n'était pas un poème avoué, pas une nouvelle, pas vraiment un récit non plus. Ce n'était pas un texte à destination dramatique. C'était quelque chose d'hybride qui m'échappait. Voilà. C'est ce texte-là, pour répondre à Bernard, qui a fini par choisir de lui-même et doucement, sans me brusquer, sa forme épistolaire. Il y avait une voix qui se liloquait, une voix sans réponse, ou je ne les entendais en tout cas pas. J'entendais la voix de ce personnage qui parlait d'un lieu que je ne situais pas d'abord très bien. C'est devenu cette île où Ulysse a échoué. cette île volcanique. Alors pourquoi Ulysse les raisons que je pourrais avancer sont assez confuses. C'est parti de l'image d'un arbre dans un verger abandonné qui existe réellement. Un arbre au tronc tordu, comme le sont les troncs de vieux pommiers, comme le sont les troncs d'oliviers, comme le sont les troncs de figuiers. Émerger là, à travers ces figures d'arbres, un paysage méditerranéen, avec une qualité de lumière et une qualité de l'air. Voilà, quelqu'un avait abandonné ce verger, il était parti sur des chemins d'errance, et il m'est devenu peu à peu évident que celui qui parlait, c'était celui-là, c'était Ulysse, loin de chez lui, loin de son pays. Voilà, ce que j'ai répondu à...
Oui, oui. Jamais évidemment, mais pas mal quand même.
Bon. Oui, il y a des choses encore peut-être que j'ai pu ajouter avant que vous me posiez peut-être des questions. Ce qui m'échappait et que je ne comprenais pas, j'ai mis un peu de temps à le comprendre grâce aux articles qui ont été écrits sur cet ouvrage, mais grâce aussi au recul que j'ai pu avoir après sa publication. Je me suis rendu compte que ce livre disait à mon corps défendant des choses sur lesquelles je n'avais jamais voulu écrire ou sur lesquelles je n'avais pas pu écrire. Je vais prendre mes notes parce que je ne voudrais pas trop m'égarer. Alors, ça doit être cette page-là. Je ne sais plus. Bon. Alors, je vais essayer de vous le dire quand même sans mon pense-bête. Oui, Ulysse est un homme de la Méditerranée, comme je le suis moi-même par mes origines. Ulysse est un homme qui a été poussé à l'exil par une guerre, comme cela a été mon cas. Ulysse est un homme qui a tourné le dos à un pays qu'il pensait retrouver, mais il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas le retrouver tel qu'il l'avait quitté. Et peu à peu, en lui s'est immiscée l'idée qu'il n'était pas utile d'y retourner, parce que c'était un pays perdu, c'était un pays où il ne voulait et où il ne pourrait pas retourner parce qu'il y avait perdu la part la plus vive de lui-même. Donc plutôt que de se perdre dans un retour, des retrouvailles ou de nourrir une nostalgie, il a préféré, comme ça a été mon cas aussi, il a préféré couper les ponts et ne plus penser à ce qui était, si, penser au paradis perdu, mais sans l'illusion évidemment de le retrouver. Et comme Bernard a dit tout à l'heure, il s'est bâti en repensant sur l'idéal une utopie. Voilà. Donc le verger abandonné d'Ulysse, c'est un lieu utopique. Et comme l'on sait, le lieu utopique, c'est un lieu introuvable. Voilà, donc je me répète, c'est un livre qui m'a pris par surprise. Je l'ai écrit, il avait des choses à dire, avec insistance pendant des années, pendant des mois, il est revenu, il voulait exister. Je ne savais pas exactement à quel point il était nécessaire dans mon intimité, et il a fini par me faire dire des choses sur lesquelles je n'ai pu jamais écrire. Donc c'est un livre finalement avec des aspects très autobiographiques.
Oui, c'est même votre conception de la vie, totalement, que vous exprimez.
Alors, il y a au-delà de ça, évidemment, oui, il y a un côté presque testamentaire. Non, mais c'est vrai. Je me suis aussi aperçu à quel point je pénétrais dans mon intimité pour donner un sentiment de la vie qui est le mien.
Une sagesse.
Oui, une sagesse, une philosophie des choses que dans mes travaux d'écriture habituellement je ne dis pas de cette façon-là ou je dis autrement ou qui sont moins visibles. Mais là, c'est vrai que ce désir de se perdre dans les paysages, de s'abandonner, d'entrer dans ce dessaisissement de soi, c'est quelque chose effectivement que je traîne avec moi et qui colle à ma façon de penser l'existence. C'est vrai que, comme il dit, je pense que l'on va aussi de rien à rien, que ce chemin de vie est quelque chose qui nous est donné miraculeusement à goûter et dont il faut absolument jouir, mais qu'il n'y a rien avant, rien après, et que nous sommes perpétuellement, de par la séparation originelle des eaux mères ou de la terre mère,
dont... Oui, les eaux mères, c'est très
bien. Voilà, des eaux mères. Je n'osais pas la souligner.
Mais si, il fallait.
Mais il fallait. Voilà. Donc nous sommes dans une perpétuelle errance. Et ce personnage-là, effectivement, finalement, tout compte fait, même si j'ai du mal à reconnaître, me ressemble beaucoup.
Est-ce que je peux vous demander votre terre d'origine ?
Pardon ?
Votre terre d'origine ?
L'Algérie. Que j'ai quittée vers l'âge de 15 ans. Voilà. Donc... J'en ai des souvenirs très, très forts.
Je sens que c'est en s'éloignant de soi, en fait, qu'on s'approche de soi.
Pardon ?
Il me semble que c'est en s'éloignant de soi qu'on s'approche de soi.
Oui, il est vrai, vous avez tout à fait raison en disant ça, parce que c'est quand je suis parti en exil, je crois que le mot n'est pas usurpé. J'avais donc une quinzaine d'années. J'étais dans la préadolescence et ensuite je suis entré dans l'adolescence et puis dans l'âge adulte. Il y avait tellement de choses à faire, la vie à construire, la vie à mener, la vie de famille, la vie professionnelle. Donc effectivement, il n'y a pas eu de place pour la nostalgie. Les choses étaient derrière, il fallait avancer, on ne comptait que le présent et que l'avenir qu'il fallait ouvrir par le travail, par l'écriture, par les projets. Et c'est vrai que je n'ai pas du tout... un tempérament qui se laisse aller à la nostalgie. Je ne me retourne jamais vers le passé. Donc, c'est quelque chose qui était derrière moi, avec l'enfance, l'adolescence, de belles choses, de beaux souvenirs, de belles images. Mais c'était une page tournée. Et puis, c'est vrai, ce que vous dites, les années passant, on se rend compte qu'effectivement, on n'a pas toujours pas, à 30, 40, 50, 60 ans peut-être, on n'a toujours pas, c'est en tout cas pour ce qui me concerne ainsi, on n'a toujours pas trouvé son lieu. On est de nulle part, comme on peut être de partout. On est en Touraine, comme on pourrait être ailleurs, dans le Lot ou en Corrèze ou quoi. Bon, finalement, tout compte fait, ça n'a aucune importance. Telle ville, telle autre, après tout, pourquoi pas, ça pourrait être Bastia, Tulle, Perpignan, Tours, bon, pourquoi ici plutôt qu'ailleurs ? Voilà, donc on s'aperçoit, en tout cas moi je me suis aperçu que je n'étais attaché à rien, à aucun lieu particulier. C'est aussi une souffrance, hein, parce que je lis de beaux poètes qui C'est le cas pour Bernard, qui revient constamment à sa terre d'origine et à ses pierres. Et je me dis, Luvénard, mais quelle chance de pouvoir, en retournant sur dans ces territoires d'origine, m'ont retrouvé comme ça l'amour du pays, quoi. Mais bon, c'est ainsi. Nous sommes faits différemment, nous avons des destins différents. Et puis, il est vrai que ce qui pendant longtemps a été une sorte d'indifférence aux origines, parce que j'avais autre chose à faire, est devenu peu à peu quelque chose qui me taraudait. Je me suis aperçu de plus en plus, comme c'est le cas aujourd'hui, que j'étais vraiment déraciné.
C'est l'écriture aussi qui est un peu éphémère et qui oblige à continuer.
Eh bien, l'écriture est un lieu, oui, c'est le lieu dans lequel effectivement je chemine, c'est le lieu le plus sûr, c'est le lieu sur lequel je pose mes pas et ils me conduisent, et puis c'est un lieu d'autant plus beau et rassurant que j'y fais de belles rencontres. Il y a Béatrice, Colette, Bernard, Michel, quelques autres, qui sont là, je le sais. Ils sont quelque part à un carrefour, ils sont quelque part au bord du chemin. On s'arrête, on se fait signe, on parle. Et tout ça, c'est très important pour moi. Donc ce chemin n'est pas, qui est un chemin d'errance, n'est pas un chemin de solitude. C'est un chemin qui se peuple, qui s'est peuplé et qui se peuple encore. Voilà. C'est un chemin habité, exactement.
Nicole, je serais intéressée par vos autres livres. Vous abordez souvent la mythologie, d'autres thèmes.
La mythologie, non, c'est la première fois que je me suis laissé prendre au piège de la mythologie, pour les raisons que j'ai expliquées, mais aussi pour des raisons plus occultes, parce qu'un livre, comme je disais, vient de choses qu'on peut expliquer et comprendre, mais il y a une grande partie qui constitue la partie émergée de l'iceberg, on ne sait pas pourquoi. Quand même en cours d'écriture d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, il y a quelques pages, 4, 5, 6, 8, c'est comme le cas, c'est le même cas pour les poèmes, on ne sait pas où ça nous mène jusqu'à ce que le poème ou le texte soit achevé et qu'on sache enfin qu'on est arrivé là, mais sans toujours avoir compris comment, par quel cheminement on est passé, par quoi. On est passé pour en arriver là, ce qui fait que une fois le texte achevé ou le poème, on est incapable, moi en tout cas, on est incapable de retracer le cheminement parce que il reste en grande partie inconnu. Voilà, exactement, c'est ce que j'avais noté sur ma petite fiche que j'ai perdue. C'est la phrase de René Char: les mots savent de nous ce que nous ignorons d'eux. Et c'est ainsi qu'effectivement les poèmes ou les textes nous conduisent.
Et d'autres, moi j'ai des poèmes de Michel Blaz dans ma revue. Je propose qu'il nous les lise.
C'est bien, oui, une lecture.
Eh bien, volontiers. Alors Colette, ça me fait grand plaisir que vous me proposiez de lire ce texte-là, ces extraits, parce que c'était des textes qui étaient sous forme de manuscrits il y a encore très peu de temps. Et puis j'ai reçu il y a quelques jours une lettre, enfin c'était un mail plutôt, de Sylvain Arabeau, des éditions Alcyone, qui m'écrivait qu'elle avait retenu pour publication en 2002 ce recueil qui s'intitule Quelque part la lumière pleut. Quelque part la lumière pleut. C'est une citation d'ailleurs d'un texte de Sylvain. Je lis tout. Alors donc, quelques extraits de Quelque part la lumière pleut. Ce sont les textes sans titre. C'était 7 heures, un puits rempli de voies obscures. La seule étoile qui s'y reflétait avait le ciel pour compagnon. Ceux qui s'en échappaient s'en allaient dans la nuit, épouser les hanches du vent. Tu te disais cela parce qu'un papillon palpitait dans ta paume avant d'aller brûler dans l'air de la lampe. C'était une heure à fond de sable et de vase, avec autour et au-dessus ombre sur ombre, s'élant remous d'air noir où la vie se disperse un peu plus, où rien ne nous rassemble. Tu savais que le temps se cachait dans le battement de tes cils, mais ne pouvait que demeurer ainsi, et enclos par toi-même, comme un arbre veillant le silence de ses blessures. Peut-être un dieu surgirait-il d'entre ces voies des profondeurs pour faire de cette heure un lit où le soleil se penche, se lave, se nettoie, fait place nette, se repose un instant sur les pages blanches d'un livre qui enseignerait les mystères et la chute. Le livre à jamais vierge de celui qui sait toutes choses et qui te promettrait, sans user d'aucun mot, aux limites de toute pensée, la victoire inglorieuse du doute et de l'incertitude. Est-ce que je l'ai assez fort? Un petit peu plus. Second texte. Quelques mètres semés de fleurs de pissenlit, senteur des fruits tombés à terre, délivrés de l'oubli, et ces voix qu'on entend dans l'étagement de l'obscur, elles parlent de nous, défroissent doucement le tissu du silence, et sans jamais le déchirer se font frôlement d'air à la limite de la chair. Ce sont des voix jetées sur des jardins fantômes qui marchent dans le soir avec la lune, dans l'herbe avec le gel, et les oiseaux nocturnes qu'elles croisent se cachent avec elles dans le recoin des granges pour mourir d'une lente et vaste solitude. On ne peut rien écrire de ce qu'elles nous disent, bien qu'on les sente remuer perpétuellement par les mots qui remontent aux lèvres de leur source tremblée. On n'écrit rien avec le rien, même en lisant dans son miroir ce vide qui s'étonne, ni rien non plus avec ce qui s'épuise à lutter contre l'ombre. Mais on écrit avec l'absence, comme on écrit avec l'eau qui s'obstine à couler dans la friche des jours, avec ce qui demeure de mémoire, attaché à la mousse des pierres, avec le souvenir d'un visage ou d'un arbre, ceux qui savent donner de constantes et paisibles clartés. Nous avons si peu à saisir de ce si peu de bruit, de nuit, de bruit. Pardon. Nous avons si peu à saisir de ce si peu de bruit, entre calme et soupir, si peu aussi à oublier dans ce retrait du temps. Nous reste cette nuit à déposer par la pensée quelque impossible mot sur l'ardoise d'un ciel endormi dans le sommeil des feuilles, à inviter toute rumeur à y tracer le sien et, au lever du jour, cueillir du bout de chaque doigt le sel tombé de ses paupières. Le dernier extrait, troisième. Debout, à la proue de lui-même, il gouvernait à mots couverts les marées de septembre, caressait l'étendue du soir d'une main trop lisse pour cesser de s'allonger. À l'étendue des horizons, une seule et unique voix était distribuée, qui contenait tout l'or du monde. Et si le soleil s'emblavait dans la cendre de sa lumière, toute la mémoire de son passé, attisée par sa survivance et ses traces portées au fer rouge, brûlait dans une plaie sans consistance. Le bruit des vagues, rien qu'un long chuchotement, renvoyait l'un à l'autre les multiples visages de l'ombre, fantômes incolores qui n'apparaissaient jamais, longeant une heure désertique qui les conduirait dans les coulisses de leur nulle part. On n'y voyait plus rien, mais sa seule respiration, au lieu exact de sa présence, faisait frémir, à peine le remarquait-il, une certaine éternité, en petit feu fatalement lointain, mais qui tremblait de leur silence, comme font les miroirs surpeuplés. Voilà, vous m'excuserez pour les bafouillis, mais bon, c'est le fait de parler plus fort que je n'aurais dû, sur un texte qui appelle presque un chuchotis. Là, j'étais obligé de parler très fort, si bien que ça m'a perturbé quelque peu.
C'est pas parce que Nicole n'est pas là qu'on va puisqu'on a Alain qui est présent, il pourrait peut-être nous dire quel a été son ressenti quand il a reçu le manuscrit de Nicole Ardoin et s'il peut nous en dire quelques mots. C'est pas une obligation, hein, Alain, je ne veux pas te piéger. Voilà, non mais tu peux parler un tout petit peu plus fort. Alain nous dit qu'il a déjà publié Nicole.
Oui, c'est une poète de la chair que nous affections particulièrement.
Bon. Très bien. Vous avez entendu? Très bien. Merci. Si vous voulez pas dire, c'est dommage.
Vous ne voulez pas dire plus.
Oui, c'est vrai.
D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Non. Écoutez, je vous propose, moi, comme nous devons absolument quitter les lieux pour 18h, qu'on ait le temps quand même pour des signatures, de nous en tenir là. Et encore une fois, je remercie nos deux lauréats, Alain, l'éditeur de Galerie Librairie Racine, d'être aujourd'hui nous honorer de sa présence, et puis vous tous. Je vous souhaite de bonnes fêtes et puis je vous donne rendez-vous le 8 janvier. Nous aurons l'hommage tant attendu, tant remis à Georges-Emmanuel Clancier qui sera fait par Daniel Corr.